Il est pile 9h40 sur France Inter, l'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Oliver Stone, réalisateur de Platoon, Wall Street, est né un 4 juillet, ayant raconté par la fiction Kennedy, Nixon et George W. Bush, rencontre 20 heures durant Vladimir Poutine à Moscou. Il en sort 4 épisodes de conversation avec le président russe que France 3 commence à diffuser dès ce soir. Oui, certes, il est rare d'entendre Poutine s'exprimer aussi longuement et aussi librement. En cela, c'est intéressant. Mais pour le laisser dire quoi ? À ses yeux, aux yeux d'Oliver Stone, pardon, la Russie peut être fière de Poutine. Il le dit et il le redit. Oliver Stone dénonce la paranoïa dont l'Amérique ferait preuve à l'égard du Kremlin. Pour le cinéaste américain, les États-Unis sont une démocratie malade, paranoïaque, qui encercle et menace son éternel ennemi. La Russie aurait donc toutes les raisons de se sentir menacée et ne serait-elle en rien une menace. Oliver Stone a laissé parler Poutine. Moi, j'ai laissé parler Oliver Stone afin qu'avant de regarder le documentaire de ce soir, vous sachiez par qui le président russe a été interviewé.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Bonjour Oliver Stone.
Oui, bonjour Sonia.
La diffusion a déjà commencé aux États-Unis, déclenchant parfois de très vives polémiques. Vous vous y attendiez, évidemment.
You know, it's Mr. Putin is a hot subject.
Monsieur Poutine est très polémique. La Russie, c'est également très polémique. Les Américains n'ont qu'une certaine information limitée. Moi, je voyage à travers le monde et ça m'ennuie beaucoup quand je constate que nous sommes tellement ignorants, nous ne savons pas ce qui se passe en Russie dans une large mesure.
Alors, ce qui a déclenché polémique, souvent, c'est le ton de cet entretien qui est toujours très concentré, mais souvent souriant, décontracté.
Vous avez eu une dure journée. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous retrouver. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en juin.
Oui.
Je vous ai manqué ?
J'ai versé quelques larmes, mais j'ai pris mon mal en patience.
J'en parlais un peu plus tôt avec Fernando, mon producteur. Il dit que vous êtes un excellent PDG et que la Russie est votre entreprise. Dès qu'un problème surgit, vous essayez de le traiter sur le champ.
Oui, c'est vrai.
Ça doit être frustrant de se coucher sans avoir réussi à trouver la solution.
Ce qui m'intéresse, c'est le processus de résolution des problèmes. J'essaie d'y mettre de la créativité. Si un peintre est en train de faire un tableau et qu'il a un déjeuner, est-ce qu'il doit poser son pinceau et y aller ?
Oliver Stone, 17 ans de pouvoir d'une main de fer, parce que c'est quelqu'un qui a un rapport au pouvoir très autoritaire, et vous le laissez raconter cela en souriant.
You know, I met a man who has.
J'ai vu quelqu'un qui est un dirigeant. Il dit que c'est une démocratie, qu'il a été élu, il doit se représenter. Il veut continuer d'être de plaire aux Russes, et ça, c'est apparu clairement dans le cadre de cette discussion.
Il ne
m'a pas parlé d'être un artiste. J'ai essayé d'aller au fond des choses. Donc, pour comprendre quelqu'un, il faut être relativement doux, un petit peu comme une belle femme. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Il faut le séduire. Il faut être dramaturge, réalisateur. C'est ce que je fais, je travaille avec des acteurs, j'essaie de dégager ce qu'il y a de meilleur en eux.
À la toute fin du deuxième épisode, vous exposez à Vladimir Poutine les critiques les plus répandues sur la Russie d'aujourd'hui, en précisant bien que ce ne sont pas les vôtres.
Vos détracteurs aux États-Unis, ils sont nombreux, diraient plutôt que la Russie n'est pas une démocratie, que c'est un État traditionnellement autoritaire et que le Parlement ne prend pas de décisions importantes. Que les partis d'opposition ont un accès restreint à la télévision et que votre parti domine les médias. Que ces partis d'opposition ont le plus grand mal à être enregistrés et qu'il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire, même si cela ne date pas d'hier en Russie. Voilà certaines des critiques les plus fréquentes, et j'aimerais que vous profitiez de cette occasion pour y répondre.
Oliver Stone, tout l'objet de cette série est-il de laisser à Vladimir Poutine l'occasion d'expliquer au monde, mais d'abord aux Américains, que la Russie est un exemple de démocratie.
Well, he certainly makes that argument.
Yes. En tout cas, c'est ce qu'il dit, lui. J'ai posé des questions plus vastes. J'ai posé la question du pouvoir. Est-ce que vous êtes addict au pouvoir? Est-ce que c'est une bonne chose? Vous avez été élu, certes, comme Franklin Roosevelt a été élu 4 fois, mais ça ne vous transforme pas. Il a fait des choses bien pour la Russie. Il est aimé des Russes. S'il veut se présenter une 4e fois qu'il gagne, il va traiter cette élection. Ils le veulent comme dirigeant. Comme Gorbatchev le disait Poutine, c'est l'homme qu'il faut à la Russie actuellement.
Vous avez un long échange au sujet d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain qui a révélé la tentaculaire système d'écoute des services secrets américains. Snowden, sous mandat d'arrêt américain, qui est réfugié à Moscou aujourd'hui, auquel vous avez consacré une fiction. Vous dites, Oliver Stone, c'est étrange, autrefois les transfuges russes se réfugiaient aux États-Unis. Yeah. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Yeah. That's sad.
Oui, c'est triste. C'est vrai.
That's not to say I want to live in Russia.
Ça ne veut pas dire que je veux vivre en Russie. Le mode de vie est différent. Snowden n'avait pas de choix, lui. Il n'y a aucun pays européen qui lui offrait l'asile politique. Quand j'étais jeune, je croyais en la France sous De Gaulle. La Suisse, la Suède, peut-être, se seraient présentées, mais les choses ont changé. Vous êtes devenu beaucoup plus un satellite des Américains.
Est-ce que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui sont encore une démocratie à vos yeux?
Je ne peux pas vous le dire. La démocratie américaine est malade, très malade. Qui ne sait rien, qui ne connaît pas l'histoire, qui ne connaît pas la politique, les traités entre les gens, tout ça. Ce que signifie l'OTAN, ce que ceci ou cela signifie. Ça montre que n'importe qui peut devenir président si vous êtes un bon artiste de spectacle, et je crois que c'est ce qu'il est. Il n'y a pas de véritable débat. Il y a des discussions aux États-Unis et il y a les interruptions publicitaires. Il y a des questions de l'animateur, etc. Et les réponses, c'est des petits bouts de phrases. Il n'y a pas de véritable débat.
Vous multipliez les charges et les attaques sur Hillary Clinton, que vous qualifiez de néoconservatrice et de va-t-en-guerre. Vous dites que vous êtes depuis longtemps très inquiet par le côté va-t-en-guerre des néoconservateurs et des Américains. Vladimir Poutine abonde dans votre sens, il vous dit « moi aussi ». Trump, Donald Trump, vous paraît-il plus belliqueux et plus dangereux à ce niveau-là que Hillary Clinton ?
I don't know yet.
Je ne sais pas encore, mais quand M. Trump bombarde la Syrie, ça c'était inexplicable, que ça ne... on n'avait pas prouvé que le gouvernement syrien avait fait ceci ou cela. On est parti de je ne sais trop quel rapport. Il a bombardé la Syrie, il a été complètement appuyé par la presse américaine. Cela montre que nous avons un inconscient belliqueux, nous croyons à la guerre, aux bombes, nous vendons des armes, nous vendons des bombes, nous devons un État prussien, un État belliqueux. Je crois que c'est la chose la plus importante actuellement, c'est la posture américaine. J'ai été soldat moi-même au Vietnam et je sais que la guerre, il ne faut plus recommencer ça. Et là, les États-Unis ont trop tendance à s'embarquer dans des guerres. Ils sont embarqués dans plusieurs guerres depuis le Vietnam et qui n'ont aucune raison, aucune excuse. Et les Américains sont des moutons qui sont convaincus de tout ça et ça ne mène à rien. On a un État belliqueux. On a une dictature de l'argent et de la guerre.
Je crois que cela a toujours été comme ça aux États-Unis. La Russie est leur ennemi désigné. Elle l'était sous le communisme, elle l'est sous le poutinisme. C'est l'ennemi par excellence.
Après la Seconde Guerre mondiale est apparu le système des deux blocs. Je pense que l'Union soviétique a fait alors une erreur stratégique. Mais à cette époque, elle réagissait de façon assez primaire et doctrinaire. Je pense que lorsque les États-Unis se sont sentis à la tête du soi-disant monde libre, d'autant plus après la chute de l'Union soviétique, ils ont soudain eu l'illusion qu'ils pouvaient tout se permettre et en toute impunité.
Vladimir Poutine et vous, vous allez dans le même sens. Les États-Unis se fabriquent un ennemi pour mieux galvaniser l'opinion publique. Est-ce que ça n'est pas exactement ce que Vladimir Poutine fait avec l'opinion russe en désignant les États-Unis comme ennemi ?
Essayez de bien vous comprendre. Vous dites que les États-Unis ont mis des missiles un peu partout sur les frontières russes, étranglant la Russie, insultant la Russie. On appelle Poutine un boucher, un dictateur, etc. Et si M. Poutine dit, les États-Unis font pression sur nous, beaucoup de pression. Vous dites qu'il n'a pas raison parce qu'il demande aux Russes de se militariser. Non, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Je regarde les cartes, je regarde les chiffres, les États-Unis et un budget militaire 10 fois supérieur au budget russe. Les Russes n'ont pas une économie comme celle des États-Unis. De quoi s'agit-il ici? On parle d'un gros va-t-en-guerre stéroïsé qui arrive dans un pays qui dit « c'est vous l'ennemi ». Si le dirigeant de ce pays dit « nous sommes menacés », moi j'ai l'impression qu'il faut croire qu'il est menacé. La défense des citoyens de l'Ukraine de l'Est par rapport à celle des États-Unis, je ne vois pas très bien quelle est la menace russe par rapport à l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, des idiots américains nous ont dit « les Russes arrivent, ils vont prendre le pouvoir ». Ils vont s'engouffrer dans le centre de l'Europe. Ils avaient une grande armée, mais ils étaient épuisés, ils étaient pauvres, ils sont encore pauvres.
Non, c'est tout le sens.
Il faut arrêter cette paranoïa. On en a assez. Moi, j'en ai assez, en tout cas.
Oui, oui. Vous avez écrit un texte, un très long texte sur Facebook que vous avez publié sur ce sujet, en disant assez, assez, assez. Absolument,
assez. Moi, je parle de l'histoire des États-Unis.
Vous faites vous-même la liste de tout ce que le peuple russe doit à Vladimir Poutine, notamment en termes de redressement économique dans les premières années de son pouvoir.
Avec vous, le PIB a augmenté, le revenu moyen aussi, vous avez réformé l'armée, vous avez mis fin à la guerre en Tchétchénie, vous avez mis un terme aux privatisations. La Russie peut être fière de vous.
Lorsqu'on en vient à la guerre en Tchétchénie, qui a été un conflit meurtrier, un conflit ravageur, vous montrez un reportage américain expliquant la situation. D'un côté, les Tchétchènes qui disent lutter pour leur indépendance. De l'autre côté, les Russes qui disent lutter contre le terrorisme. Et une archive russe montrant Vladimir Poutine devant ses troupes, levant son verre au nom de tous les morts et leur disant « on boira quand tous les problèmes seront réglés ». Et c'est tout. C'est tout sur le conflit tchétchène.
La guerre en Tchétchénie était compliquée. Une guerre sale. C'était son baptême du feu. C'était la seconde guerre tchétchène. Je crois que c'est un moment exceptionnel. Ça montre le caractère de l'homme. La plupart des dirigeants auraient dit « buvons ». Ils auraient bu. Ça, c'est la manière normale de traiter, de porter un toast aux armées. Monsieur Trump excelle là-dedans, un toast aux généraux. Non, c'est pas ce qu'il fait. Il a dit « on a un boulot à faire et puis on boit après ». Et c'est ça la différence qu'il représente.
Vous demandez à Vladimir Poutine s'il garde toujours son calme, car avec vous, il semble toujours calme. Il répond qu'il n'est pas une femme. Évidemment, l'extrait a fait le tour du monde, que c'est la nature qui veut qu'avec le cycle menstruel des femmes, les femmes perdent leur calme. Bon, vous vous tiquez gentiment.
Vous avez beau dire, il y a une tradition macho en Russie, très forte même.
Vous avez peut-être en partie raison, mais on n'a quand même pas une situation comparable à celle de certains pays musulmans où l'homosexualité est encore punie par la peine de mort.
Oui, c'est différent.
Notre société est assez libérale de façon générale.
Est-ce que c'est vrai dans l'armée aussi?
Il n'y a aucune interdiction.
Si vous prenez une douche dans un sous-marin avec un homme dont vous savez qu'il est gay, ça pose un problème?
Personnellement, je préfère ne pas aller prendre ma douche avec lui. Pourquoi j'irais le provoquer?
Oliver Stone, est-ce que l'Américain que vous êtes, qui a longtemps voté à gauche, est plus dérangé lorsque Poutine parle des femmes ou des homosexuels que lorsque Poutine vous détaille sa stratégie militaire?
Quand on entend ce qu'il dit sur la Syrie et l'Ukraine, par exemple, Peut-être je suis d'accord avec lui, peut-être que c'est la bonne interprétation. Il a situé le contexte de la manière suivante. Il y a le contexte russe dans l'est de l'Ukraine et en Crimée. Les Russes ont été assassinés, ont été mis en prison. Ils essayaient de survivre. Et moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Il me semble que c'était une aide humanitaire qu'il a apportée. En ce qui concerne la Syrie, c'est que c'est Obama qui a déstabilisé la Syrie pendant des années. Il a bombardé la Syrie pendant 4 ans. Les Russes sont intervenus en 2015. Ils ont été très précis, très concis. Ils ont bombardé les routes vers la Turquie, qui permettait de financer ISIS. Il a bombardé ses camions, ses routes, il a essayé de les éliminer. Ils ont été efficaces. En ce qui concerne les femmes, il les respecte. À la manière russe, c'est un russe. Ce n'est pas un français. En France, les femmes s'expriment davantage. Mais depuis 1917, les Soviétiques ont fait beaucoup pour les femmes qui étaient égales. À l'heure actuelle, maintenant, ce sont les femmes qui font tout le travail, les hommes qui se reposent. C'est une blague, c'est une fake blague.
Une dernière question, Oliver Stone. Vous utilisez beaucoup d'images produites par Russia Today. Est-ce que RT vous paraît un média fiable? C'est un média public financé par le Kremlin à destination de l'étranger. Est-ce qu'il vous paraît un média fiable, vous qui êtes extrêmement critique vis-à-vis des grands médias américains depuis longtemps?
En fait, RT has given us a great... RT... Abroad, outside Russia, I cannot speak for Russia. À l'étranger, pas en Russie, je ne peux pas parler de la Russie, mais à l'étranger, dans les zones de guerre en Syrie, j'ai vu leur travail, en Ukraine aussi, et dans d'autres pays également. C'est extraordinaire comme travail. Leurs journalistes ont été assassinés très souvent, à la bataille, lors de la bataille de Homs. Donc ils ont beaucoup donné, ils ont fait un tournage assez extraordinaire qu'on n'a pas vu en Occident. Les médias occidentaux, peut-être les médias français c'est autre chose, mais en tout cas les médias américains ne tiennent pas compte des civils tués par le militaire américain. Ils n'en tiennent pas compte, c'est tout.
RT
doit être... on doit leur faire des compliments pour leur travail à l'étranger. Alors, ils sont financés par l'État, je crois, de manière indépendante, peut-être que je me trompe. La BBC a toujours contribué à la télévision britannique, et ces télévisions ne me donnent pas toujours une couverture très favorable. Ils coupent beaucoup, et c'est beaucoup plus lamentable que ce que j'ai vu sur RT. La télévision française, je ne sais pas encore.
Merci beaucoup, Oliver Stone. Merci beaucoup. Voilà, faire des compliments à RT. Je pense que les options idéologiques d'Oliver Stone sont extrêmement claires et en tout cas hautement revendiquées et affichées. Conversation avec Mr. Poutine est diffusée ce soir sur France 3, les deux premiers épisodes. Ensuite, il y aura un débat dans la foulée avec Sylvie Kaufmann du Monde, Bernard Guetta et Hubert Védrine. Vraiment, demandez-vous par qui et pourquoi et comment est interviewé Poutine avant de regarder ce programme. Ali Rebéi, la suite sur France Inter.
Bonjour Ali. Ce matin, je vous propose quelques conseils pour passer un été en bonne forme, de bonne humeur et en bon état, que vous ayez la chance
en bon état
de partir en vacances ou
bande
pas.
Bande de débris.
Nous recevrons notamment le professeur Michel Lejoyeux, Maïté Nabi Rabin et le docteur Baptiste Beaulieu. 01 45 24 7000.